Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, vous allez écouter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. La rubrique suivante, comme tous les jours, nous allons présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et les Maldives intensifient la coopération dans les domaines du tourisme et de la pêche. L'exportation de caoutchouc vers l'Égypte devrait être faite directement. Le ministre américain des Affaires étrangères a contacté son homologue de l'Indonésie pour discuter la crise de Qatar. Les musulmans indonésiens distribuent 2 milliards de rupiah pour la Palestine. Et enfin, l'ambassade indonésienne a transmis 120 colis au peuple marocain. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères, Retno Alpemakhdi, a mené une réunion bilatérale avec son homologue des Maldives, Dr. Mohamed Asim, mercredi le 21 juin 2017, au ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La ministre Retno, après une réunion bilatérale, a déclaré que la coopération dans le secteur du tourisme et de la protection des citoyens devient le sujet de discussion des deux ministres des Affaires étrangères. L'Indonésie et le Maldives sont d'accord pour que la coopération commerciale en intensifie les contacts entre les entreprises des deux pays. L'Indonésie et les Maldives sont un pays insulaire, donc la question du changement climatique est également un sujet de discussion. Les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique.
Maldives sangat terkenal dengan pariwisatanya dan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan kita sepakat untuk
Les Maldives sont très célèbres pour son tourisme et l'Indonésie a aussi un énorme potentiel touristique. Et nous avons convenu d'intensifier la coopération dans le domaine du tourisme, y compris le partage d'expériences dans le domaine de la promotion. Dans le contexte du tourisme, nous avons 1400 citoyens indonésiens aux Maldives et la majorité travaille dans le secteur du tourisme. La ministre Retno a expliqué que les deux ministres des Affaires étrangères avaient également discuté l'intensification de la coopération dans les domaines de la pêche et maritime. Après une visite au ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères des Maldives rencontrera la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti. Madame Retno Marsudi a expliqué les deux pays intensifieront également la coopération dans le domaine de l'amélioration de la coopération technique. Jusqu'à présent, l'Indonésie a fourni une formation dans les domaines de la gestion des catastrophes, la pêche, la démocratie, la bonne gouvernance et la télévision. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également parlé des efforts liés aux Maldives pour établir la connectivité et l'Indonésie offre ses produits dans la fourniture de modes de transport aux Maldives. À cette fin, le ministre des Affaires étrangères des Maldives se rendra à PT Dirgantara Indonesia. Selon elle, d'année en année, il y a une tendance positive dans le commerce entre les deux pays. L'Indonésie exporte un certain nombre de produits clés vers l'Égypte. Ces produits comprennent l'huile de palme rouge et ses dérivés, le café, le papier pour l'impression de livres, les pneus et le caoutchouc. L'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Boukman Rahman, ARRI au Caire, a déclaré récemment que, jusqu'en mars 2017, les exportations de l'Indonésie vers l'Égypte pour les produits de pneumatiques et de caoutchouc se classent au cinquième rang sur des produits exportés par l'Indonésie vers l'Égypte. Selon Boukman, bien que la valeur des exportations soit assez grande, le processus d'exportation se fait encore par entière. À l'avenir, l'exportation de pneus et de caoutchouc pourrait être réalisée directement. Ensuite, de nouveaux pneus ou du caoutchouc. Il y a donc des pneus et du caoutchouc. En Indonésie, ils vont en Italie d'abord et puis vers l'Égypte. Nous souhaitons que les compagnies de caoutchouc en Indonésie puissent contacter directement l'attaché commercial au Caire pour être liés aux compagnies de pneus en Égypte. Boukman Rahman a ajouté que les exportations effectuées directement par les compagnies de caoutchouc indonésiennes vers l'Égypte réduiraient certainement les coûts ou les frais engagés par les compagnies de pneus en Égypte. En outre, l'augmentation des exportations de caoutchouc vers l'Égypte augmentera également. Les valeurs commerciales entre les deux pays ciblées pour atteindre plus de 1,5 milliard de dollars. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP-Marsudi, et le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, ont discuté par téléphone des questions importantes, y compris le développement de la crise diplomatique du Qatar. La ministre Retno Marsudi, citée par Antara le mercredi, a dit qu'il y avait des questions importantes à discuter avec Rex Tillerson. Entre autres, la crise dans le Golfe Persique, quelques pays arabes a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, parce que le Qatar est considéré comme la menace de la sécurité de la région et soutient les groupes militants armés. La ministre Retno a déclaré à Tillerson la position de l'Indonésie sur la question et l'Indonésie a demandé que les États-Unis aient également contribué pour que la situation ne se détériore pas et le dialogue peut se faire immédiatement. L'Indonésie continue d'encourager les pays impliqués dans la crise diplomatique du Qatar de promouvoir le dialogue et la réconciliation. La semaine dernière, Retno Marsudi a reçu l'envoyé spécial des Émirats Arabes Unis, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, pour discuter des mesures qui peuvent être prises dans le traitement de la crise diplomatique au Qatar. Les musulmans indonésiens ont déboursé 2 milliards de dollars américains pour le peuple palestinien qui est géré dans une variété d'activités et d'autres programmes humanitaires pendant le mois de Ramadan. Selon le haut fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Amman, en Jordanie, Nico Adam, cité par Republika mercredi à Jakarta, les musulmans indonésiens chaque année voulaient donner toujours des repas de l'iftar au peuple palestinien dans la mosquée Al-Aqsa, mais ces efforts ont échoué en raison de l'interdiction des autorités israéliennes. Selon Nico Adam, au début de Ramadan cette année, il y a l'interdiction de la rupture du jeûne dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa. Mais à la deuxième semaine, l'interdiction a été levée. L'ambassade d'Indonésie à Amman a coordonné directement avec un citoyen indonésien à Gaza, Abdillah Onim, pour donner l'assistance de l'iftar à la mosquée Al-Aqsa. Enfin, les intentions des musulmans indonésiens à partager avec les musulmans palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa dans le mois sacré du Ramadan est atteinte. L'ambassade d'Indonésie à Rabat au Maroc a transmis plus de 120 colis de Ramadan aux pauvres autour de la mosquée indonésienne à Kenitra au Maroc, comme les efforts d'améliorer les relations entre les communautés d'Indonésie et au Maroc. La livraison des colis a été menée symboliquement par le conseiller politique et l'économie, Boni Hendraningko Barshi, et le chef de DWP de l'ambassade d'Indonésie à Rabat et la Chamsouri. Le colis contient divers besoins fondamentaux de la société marocaine en général, comme la farine, le sucre, le café et l'huile de palme. Bagus Hendraningko Barshi a dit la livraison de colis de Ramadan comme une tentative de l'ambassade d'Indonésie à Rabat et en Indonésie pour établir les relations amicales et de parenté avec la société marocaine, resserrer les relations intercommunautaires afin de soutenir de bonnes relations entre l'Indonésie et le Maroc à l'avenir. Les activités de Ramadan de l'ambassade d'Indonésie à Rabat à la mosquée indonésienne Kenitra a été bien reçu par des gens autour de la mosquée d'Indonésie, en particulier les bénéficiaires de dons qui ont été enregistrés au préalable par le comité organisateur. le chef du bureau de représentation du ministère des Awqafs de Kenita, Bouchara Zaid, a déclaré « La dénomination d'Indonésie pour la mosquée est une forme de respect pour les délégués d'Indonésie qui assistaient à une conférence internationale du monde islamique au Maroc en 1962. En plus de la mosquée indonésienne, le Maroc a également une mosquée avec le nom d'autres pays comme la mosquée d'Iran à Mekne et à la mosquée de Soudan à Salé. » Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre le 490e anniversaire de Jakarta. Aujourd'hui, le 22 juin 2017 est le 482e anniversaire de Jakarta. Diversité, unir et servir est le thème de cet anniversaire, a annoncé la veille des festivités dans le parc de Waduk Pluit, Jakarta du Nord, par gouverneur intérimaire Jarod Saiful Hidayat. Ce thème a le sens, bien que les caractéristiques de Jakarta soient très diversifiées, mais cette diversité doit être unie et ses agents ont l'esprit de servir tous les citoyens sans discrimination. Les activités du gouvernement provincial de Jakarta sont effectuées afin de réaliser ce thème. Jarod Saiful Hidayat a dit « Jakarta qui était propre n'est pas seulement vue de la propriété de l'environnement seul, mais aussi sur l'attitude des autorités de la ville qui n'est pas corrompue et ne pas accepter l'extorsion de fonds et prêts à faire avancer Jakarta au niveau international. Bien sûr, divers événements ont été préparés pour animer l'anniversaire de Jakarta cette année. Comme les années précédentes, précisément le 22 juin, on organise une cérémonie et une session plénière au Parlement régional. L'anniversaire de la capitale cette année coïncide avec l'inauguration de plusieurs projets qui sont déjà achevés, entre autres les couloirs 13 de transport de Transjakarta et Jack Grossir, qui est le centre de vente en gros des besoins de base comme la viande, les œufs, la farine, le sucre, le riz, les légumes, etc. Ces produits sont fournis par le gouvernement provincial de Jakarta pour être vendus à bas prix pour que la vente au marché commun puisse être réduite aussi bas que possible. La présence de Jack Grossir pourrait contrôler la flambe bleue des prix des denrées alimentaires qui se produit toujours chaque approche de l'Idul Fitr ou le Bahrain, la fête musulmane qui est la plus grande fête en Indonésie. À l'heure actuelle, l'installation a été construite dans le marché de Kramat Jati, Jakarta Est. D'autres activités pour célébrer l'anniversaire de Jakarta est l'organisation de l'exposition régulière de la foire de Jakarta. Cette activité qui a lieu au cours de ce mois vise à donner la place pour la culture, l'art et le tourisme de la ville de Jakarta. L'exposition plus grande, plus longue et plus complète en Asie du Sud-Est a été officiellement ouverte le 14 juin et se déroulera jusqu'au 16 juillet 2017. À l'exposition annuelle qui a maintenant 50 ans cette année, a été également lancée une application mobile de la foire de Kemayoran, la foire de Jakarta ou PRJ, qui est maintenant appelée la foire de Jakarta Kemayoran JFK 2017. Elle lance également Go numérique pour rendre plus facile pour les visiteurs d'obtenir des informations sous la forme des dernières nouvelles, les informations générales, la promotion des produits, le calendrier des concerts, le calendrier des événements et des informations sur diverses installations. Le ministre indonésien du Tourisme, Arif Yahya, espère que l'organisation de JFK cette fois pour augmenter la promotion du tourisme à Jakarta et à absorber les touristes de la Malaisie et de Singapour qui étaient le marché. Pendant ce temps, le chef du service de tourisme de Jakarta, Chatur Laswanto, a expliqué les événements organisés à Jakarta Fair Kemayoran, entre autres bazar, l'exposition des technologies récentes, de l'automobile, l'artisanat, des alimentations, les performances musicales qui sont organisées chaque jour pendant un mois. Sur Twitter, c'est le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Sœur Rita, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'anniversaire de Jakarta. La ville de Jakarta est appelée initialement Sunda Kelapa, ensuite Sangze à Batavia, plus tard par le commandant du sultanat de Demak nommé Fatahillah. Ce nom était Sangze à nouveau à Jakarta, est enfin à Jakarta. La détermination de l'anniversaire de Jakarta se réfère à la détermination délivrée par le maire de Jakarta pour la période 1963-1968, Sudiro. Sudiro se rend compte de l'importance de l'anniversaire de cette ville, donc il a appelé un certain nombre d'historiens comme M. Muhammad Yamin et M. Dr. Sukanto, ainsi qu'un journaliste sévronais, Sudarjo Cokro Siswoyo, à examiner quand Jakarta est créée. Monsieur Dr. Sukanto a transmis un manuscrit intitulé de Jakarta à Jakarta. Il soupçonne que le 22 juin 1527 est un jour qui est le plus proche du vrai établissement de la ville Jakarta par Fatahillah. Ce manuscrit a été fourni par Sudiro au conseil municipal provisoire à discuter, qui a organisé immédiatement une séance et a décidé que 22 juin 1527 était comme la fondation de la ville de Jakarta. Exactement, 22 juin 1956, Sudiro l'a proposé officiellement dans la session plénière et cette proposition a été acceptée à l'unanimité. Depuis ce moment, chaque le 22 juin est tenue une session extraordinaire du Conseil régional de Jakarta comme une tradition de la commémoration de l'établissement de Jakarta. L'autre information est sur l'opération de Barbarossa en URSS 22 juin 1941. Les troupes allemandes pénètrent en Union soviétique. Le nom de l'opération, Barbarossa. Pourtant, Alerté par ses services secrets, Staline ne s'attendait pas à ce qu'Hitler rompe le pacte de non-agression signé deux ans plus tôt. Bien qu'un ami du bolchevisme, le premier ministre britannique Winston Churchill apporte aussitôt son soutien à l'URSS. La Wehrmacht, d'abord victorieuse face à une armée russe démoralisée, sera arrêtée par l'hiver avant d'atteindre Moscou. Considérant les Slaves comme des sous-hommes et le communisme comme leur principal ennemi, les nazis mèneront en URSS une guerre bien plus cruelle qu'à l'Ouest. Cette attitude jouera en leur défaveur, stimulant le patriotisme russe au sein de toute la population. Nous finissons cette aujourd'hui avec l'événement. Bannissadeur a été licencié comme président. Le 22 juin 1981, le dirigeant de la révolution iranienne et le premier guide suprême de l'Iran, Imam Khomeini, a reçu la mise en accusation du Parlement qui a déclaré l'incapacité de Bannissadeur à servir en tant que président et a sorti une décision de licencier Bannissadeur. Bannissadeur était le premier président de la République islamique de l'Iran élu directement par le peuple à travers des élections. Cependant, les preuves ont montré que Bannissadeur avait effectué les étapes contraires aux valeurs de la révolution islamique et même avait coopéré avec des étrangers pour renverser le système du gouvernement islamique en Iran. Le Parlement a ensuite fait massivement impeachment contre Bannissadeur. Après avoir été congédié, Bannissadeur a également fui vers la France et continue ses efforts pour saper la République islamique d'Iran à l'étranger. Sur le tard, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'application de Clou est déjà adoptée par les pays de l'ASEAN et l'Amérique latine. » L'application des médias sociaux pour rapporter les problèmes de la ville, Clou, était également intéressée par d'autres pays. L'application locale est déjà adoptée par quelques pays de la région de l'ASEAN et l'Amérique latine. Pour la région de l'ASEAN, la Malaisie et d'autres pays ont adopté ce système. Le gouvernement de ces pays voit les services fournis par Clou pour soutenir leurs programmes gouvernementaux. Le fondateur et le CEO de Clou, M. Rama Raditya, a déclaré un dimanche à Jakarta que ces pays ont contacté le gestionnaire de Clou et demandé si cette application était adoptée sur leur territoire. En fait, ils sont mieux préparés que l'Indonésie. Selon Rama Raditya, le contenu de Clou étant adopté dans les pays de l'ASEAN et l'Amérique latine va répondre aux besoins des gouvernements locaux. Clou est assez facile à être adopté à l'étranger en tant que chef et directeur des villes étrangères ont un objectif visionnaire. En Indonésie, l'adoption des applications de Clou est encore relativement lente. Selon Rama Raditya, Clou est déjà présent dans plus de 10 villes en Indonésie. Le faible de l'adoption de Clou en Indonésie pour Rama Raditya est le devoir du gouvernement central afin d'encourager les dirigeants locaux à faire preuve de transparence et d'avoir une vision intelligente de la ville. Le gouvernement provincial de Jakarta est l'un des utilisateurs et a adopté Clou. En général, Clou fournit la facilité aux citoyens de la ville de faire le rapport. Les établissements publics se plaignent liés et les services publics. Cependant, Clou peut également être utilisé pour signaler les bonnes choses dans le quartier de Jakarta. Bien qu'il s'agisse comme une application de médias sociaux des rapports citoyens, Clou emballé avec des caractéristiques étrayantes. Il y a une fonction de chat avatar jusqu'à ce que les points d'offre qui peuvent être échangés pour des prix. lorsque l'utilisateur a été enregistré en tant que membre clou, l'affichage mot clou similaire à Facebook. Cependant, le message qui apparaît sur les murs sous forme clou des rapports des citoyens. Il y a des catégories de rapports tels que les rapports aux organismes gouvernementaux, des entités privées ou créer des sujets de forum qui correspondent aux intérêts de l'utilisateur. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta.
La ministre des Affaires étrangères, Retno Alpemakhdi, a mené une réunion bilatérale avec son homologue des Maldives, Dr. Mohamed Asim, mercredi le 21 juin 2017, au ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La ministre Retno, après une réunion bilatérale, a déclaré que la coopération dans le secteur du tourisme et de la protection des citoyens devient le sujet de discussion des deux ministres des Affaires étrangères. L'Indonésie et le Maldives sont d'accord pour que la coopération commerciale en intensifie les contacts entre les entreprises des deux pays. L'Indonésie et les Maldives sont un pays insulaire, donc la question du changement climatique est également un sujet de discussion. Les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique.
Maldives sangat terkenal dengan pariwisatanya dan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan kita sepakat untuk.
Les Maldives sont très célèbres pour son tourisme et l'Indonésie a aussi un énorme potentiel touristique. Et nous avons convenu d'intensifier la coopération dans le domaine du tourisme, y compris le partage d'expériences dans le domaine de la promotion. Dans le contexte du tourisme, nous avons 1400 citoyens indonésiens aux Maldives et la majorité travaille dans le secteur du tourisme. La ministre Retno a expliqué que les deux ministres des Affaires étrangères avait également discuté l'intensification de la coopération dans les domaines de la pêche et maritime. Après une visite au ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères des Maldives rencontre la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti. Madame Retno Marsudi a expliqué que les deux pays intensifieront également la coopération dans le domaine de l'amélioration de la coopération technique. Jusqu'à présent, l'Indonésie a fourni une formation dans les domaines de la gestion des catastrophes, la pêche, la démocratie, la bonne gouvernance et la télévision. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également parlé des efforts liés aux Maldives pour établir la connectivité et l'Indonésie offre ses produits dans la fourniture de modes de transport aux Maldives. À cette fin, le ministre des Affaires étrangères des Maldives se rendra à PT Dirgantara Indonesia. Selon elle, d'année en année, il y a une tendance positive dans le commerce entre les deux pays. L'Indonésie exporte un certain nombre de produits clés vers l'Égypte. Ces produits comprennent l'huile de palme rouge et ses dérivés, le café, le papier pour l'impression de livres, les pneus et le caoutchouc. L'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Bourman Rahman, ARRI au Caire, a déclaré récemment que jusqu'en mars 2017, les exportations de l'Indonésie vers l'Égypte pour les produits de pneumatiques et de caoutchouc se classent au cinquième rang sur des produits exportés par l'Indonésie vers l'Égypte. Selon Bourman, bien que la valeur des exportations soit assez grande, le processus d'exportation se fait encore par un tiers. À l'avenir, l'exportation de pneus et de caoutchouc pourrait être réalisée directement.
New pneumatic tires.
Ensuite, de nouveaux pneus ou du caoutchouc. Il y a donc des pneus et du caoutchouc. En Indonésie, ils vont en Italie d'abord et puis vers l'Égypte. Nous souhaitons que les compagnies de caoutchouc en Indonésie puissent contacter directement l'attaché commercial au Caire pour être liés aux compagnies de pneus en Égypte. Bourman Rahman a ajouté que les exportations effectuées directement par les compagnies de caoutchouc indonésiennes vers l'Égypte réduirait certainement les coûts ou les frais engagés par les compagnies de pneus en Égypte. En outre, l'augmentation des exportations de caoutchouc vers l'Égypte augmentera également. Les valeurs commerciales entre les deux pays ciblées pour atteindre plus de 1,5 milliard de dollars. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpemakhdi, et le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, ont discuté par téléphone des questions importantes, y compris le développement de la crise diplomatique du Qatar. La ministre que nous avons cité par Antara le mercredi a dit qu'il y avait des questions importantes à discuter avec Rex Tillerson. Entre autres, la crise dans le golfe Persique, quelques pays arabes ont rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar parce que le Qatar est considéré comme la menace de la sécurité de la région et soutient les groupes militants armés. La ministre Retno a déclaré à Tillerson la position de l'Indonésie sur la question et l'Indonésie a demandé que les États-Unis aient également contribué pour que la situation ne se détériore pas et le dialogue peut se faire immédiatement. L'Indonésie continue d'encourager les pays impliqués dans la crise diplomatique du Qatar de promouvoir le dialogue et la réconciliation. La semaine dernière, Retno Marsudi a reçu l'envoyé spécial des Émirats Arabes Unis, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, pour discuter des mesures qui peuvent être prises dans le traitement de la crise diplomatique au Qatar. Les musulmans indonésiens ont déboursé 2 milliards de dollars américains pour le peuple palestinien qui est géré dans une variété d'activités et d'autres programmes humanitaires pendant le mois de Ramadan. Selon le haut fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Amman, en Jordanie, Nico Adam, cité par Republika mercredi à Jakarta, les musulmans indonésiens chaque année voulaient donner toujours des repas de l'iftar au peuple palestinien dans la mosquée Al-Aqsa, mais ces efforts ont échoué en raison de l'interdiction des autorités israéliennes. Selon Nico Adam, au début du Ramadan cette année, il y a l'interdiction de la rupture du jeûne dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa. Mais à la deuxième semaine, l'interdiction a été levée. L'ambassade d'Indonésie à Amman a coordonné directement avec un citoyen indonésien à Gaza, Abdillah Onim, pour donner l'assistance de l'iftar à la mosquée Al-Aqsa. Enfin, les intentions des musulmans indonésiens à partager avec les musulmans palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa dans le mois sacré du Ramadan est atteint. L'ambassade d'Indonésie à Rabat au Maroc a transmis plus de 120 colis de Ramadan aux pauvres autour de la mosquée indonésienne à Kenitra au Maroc, comme les efforts d'améliorer les relations entre les communautés d'Indonésie et au Maroc. La livraison des colis a été menée symboliquement par le conseiller politique et l'économie, Bonne Hendra Ninkobarshi, et le chef de DWP de l'ambassade d'Indonésie à Rabat et la Chamsouri. Le colis contient divers besoins fondamentaux de la société marocaine en général, comme la farine, le sucre, le café et l'huile de palme. Bagus Hendra Ninkobarshi a dit la livraison de colis de Ramadan comme une tentative de l'ambassade d'Indonésie à Rabat et en Indonésie pour établir les relations amicales et de parenté avec la société marocaine, resserrer les relations intercommunautaires afin de soutenir de bonnes relations entre l'Indonésie et le Maroc à l'avenir. Les activités de Ramadan de l'ambassade d'Indonésie à Rabat à la mosquée indonésienne Kenitra a été bien reçu par des gens autour de la mosquée d'Indonésie, en particulier les bénéficiaires de dons qui ont été enregistrés au préalable par le comité organisateur. Le chef du bureau de représentation du ministère des Aoukafs de Kenita, Bouchara Zaid, a déclaré « La dénomination d'Indonésie pour la mosquée est une forme de respect pour les délégués d'Indonésie qui assistaient à une conférence internationale du monde islamique au Maroc en 1962. En plus de la mosquée indonésienne, le Maroc a également une mosquée avec le nom d'autres pays comme la mosquée d'Iran à Meknè et à la mosquée de Soudan à Saleh. » Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar. Thank you.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons la tradition Sangringan. Une tradition qui a été en cours il y a environ 489 années. La tradition de Sangringan est d'habitude pratiquée dans les proches de mosquée Jami Sunan Dalem au village Gumeno, district Manyar, région Gresik, dans la province de Java Est. Cette tradition se perpétue en mangeant de poulet compoté ainsi que du riz gluant bouilli et des dattes. En général, le 21 jour du Ramadan, on commence de préparer la tradition de Sangringan. Il commence à abattre du poulet pour cuire le poulet compoté. Les matériaux préparés sont le poulet, la ciboule, le sucre brun et la cumin. Les matériaux commencent normalement cuits depuis le 22 Ramadan du matin. Dans cette tradition, tous les chefs sont les hommes qui sont élus. La régénération de chefs est faite chaque année et vient d'ajouter une nouvelle génération de cuisiniers. La régénération est preuve que cette tradition soit maintenue. D'habitude, les autres hommes, y compris les adolescents, être seulement à mesurer, baisser et trancher le poulet, ainsi organiser les matériaux prêts à l'emploi sur une plaque qui sera ensuite distribuée aux résidents locaux, notamment pour ceux qui ont contribué des fonds et du personnel. Sangringan vient du mot sang qui signifie roi et gring qui signifie la maladie. Alors sangring signifie le roi qui est malade. Cette tradition est née au moment de Sunan Dalem, s'ouvre assez longtemps. On a cherché à remédier partout, mais il n'est pas encore guéri. Enfin, Sunan Dalem était guidé à travers un rêve que les résidents font des plats comme le médecine. Le lendemain, les habitants apportent un coq qui est ensuite abattu et puis cuit au lait de coco, le cumin, le sucre brun et la ciboule. Une fois la cuisson terminée, Sunan Dalem a demandé aux résidents de prendre des riz gluants qui étaient cuits et ensuite manger ensemble pendant le jeûne. Sunan Dalem était récupéré. Et enfin, la tradition est poursuivie jusqu'à présent. De nombreux résidents croient que manger la compotée de poulet pendant le jeûne dans la mosquée Jami Sunan Dalem au village Gumeno, faire ça à la maison est différent. De plus, la compotée de poulet est également soupçonnée de rétablir le courant. Et le plus important, elle colle entre les gens. En raison de poulet compoté provient de Kolakol Ayam, les gens pourraient se réunir, notamment pendant le jeûne. Et d'habitude, en attendant le temps de briser, ceux qui viennent peuvent profiter de la musique d'instruments à cordes et à côté la parole spirituelle des ulémas. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, le Festival de Cham de Palu Nomoni 2016. L'Indonésie est riche en diverses attractions culturelles et la beauté de la nature, ainsi qu'une variété de plats avec le goût élevé. Ce potentiel s'étend de la province de Nangro Aceh Darussalam aux provinces de Papouasie. Cette richesse fait de l'Indonésie est connue comme l'une des pays qui est une destination touristique populaire dans le monde. Cependant, le secteur du tourisme de l'Indonésie accuse toujours du retard, loin du tourisme des pays voisins comme Singapour et la Malaisie. Pour augmenter les arrivées de touristes étrangers et les touristes nationaux, l'une des zones de la province de Sulawesi centrale est prête à tenir le festival, à savoir le Festival du Cham de Palu Nomoni 2016. Chers auditeurs, en septembre 2016, pour ceux qui aiment voyager, doivent être prêts à visiter la ville de Palu à Sulawesi centrale. Il y a le Festival du Cham de Palu Nomoni 2016 qui présentera la culture, les rituels traditionnels et divers types de concours. Le festival aura lieu du 24 au 26 septembre. Enfin, lancement du festival du Cham de Palu Nomoni a été fait dans le hall de Susilo Sudirman, le bâtiment de Sabta Pesona Langdi. Le ministre du Tourisme Arif Yahya avec le maire de Palu Hidayat, le maire adjoint Sigit Purnomo Said et le vice-gouverneur de Sulawesi Central Sudarto ont frappé le gong qui marque le lancement de l'événement. Selon le maire de Palu, Hidayat, cet événement vise à promouvoir la ville de Palu comme la principale destination touristique dans le centre de Sulawesi et augmenter la visite des touristes qui ciblent cette année 500 000 touristes nationaux et 25 000 touristes étrangers. L'objectif le plus important du festival est d'augmenter l'économie de la communauté de Palu. Hidayat expliquait, ce festival annuel est organisé depuis 2008 sous le nom du Festival de la Baie de Palu. Pour 2016, cet événement a changé son nom au Festival du Charme de Palu Nomini. Nomini, selon la langue locale, signifie sonner. Ce festival présentera les attractions intéressantes, entre autres les arts culturels. La première activité au long de 7,2 km, il y avait 520 points d'épère de la torche. Ensuite, il y a la flûte et un tambour tintiron et les torches qui allument simultanément lors de l'ouverture du festival. La deuxième activité, le rituel coutumière. Il y a aussi la scène culturelle au long de 7,2 km. Ce qui rend ce festival unique est que les touristes seront transportés avec la voiture à cheval pendant le festival. Le festival du charme de Palu Nomini 2016 sera également animé par un marathon qui sera en concurrence 3 numéros. Tout d'abord, la plaine marathon avec la distance de 42,195 km, puis half marathon de 21,1 km, ainsi que la classe de 10 et 5 km avec un prix total qui atteint 400 millions de rupiah. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le titre Festival du charme de Palu Nomini 2016. Demain, nous nous retrouverons avec le sujet plus intéressant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, bienvenue au magazine musical qui présente les musiques pop et modernes. Pour l'édition ce soir, nous vous présentons un chanteur religieux Opik. Voici sa première chanson Opik.
Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Jadi bahagia bila hati
Ini avec le nom complet Ainur Rafiq Lil Firdaus à Jember, Java S, le 16 mars 1964. Opik à ce moment a eu 8 singles, si d'entre eux ont le courant de rock, mais malheureusement, le premier album de rock n'était pas acceptable par le public, car cet album porte le thème social dur, mais qui aurait pensé? Opik, qui n'avait jamais inclure le nom d'Allah dans ses chansons, maintenant connu comme le chanteur religieux étant aligné avec un clerc. Opik a subi une transformation, non seulement pour sa performance d'aujourd'hui, qui porte toujours gamis ou le vêtement islamique et turban. Il existe aussi à travers ses chansons mélodieuses. Son premier album religieux en titre Istighfar, publié en 2005, était succès. Un mois après la publication, cet album était capable de remporter le double platine avec la vente plus de 300 000 de copies. Bon, serviteur et auditrice, écoutons donc la deuxième chanson d'Opik.
Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuji, memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Takkan ada perbandingan untukmu Allah. Keagungan kebesaran milikmu Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Oh. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah.
Allah, 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 All Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah.
Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendambah cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Hanya Allah yang maha penyayang, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan. Allah maha pemurah, Allah maha dermawan. Allahu Allah, Allahu Akbar. Wallahu
Allah.
Dalam lautmu, setiap hati mendambah cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cintamu.
Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah.
Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada tujuh.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.